Comment il va, notre Loïc?
Oh, moi, je vais très bien. Beaucoup mieux, en tout cas, que le juge Kavanaugh. Oh, que ça brasse pour lui!
Ça, c'est le juge que M. Trump veut nommer. Et s'il est confirmé par le Congrès, la majorité au Congrès sera, sera très nettement conservatrice.
Oui, c'est un homme très conservateur, très religieux. Or, il vient d'être accusé d'avoir tenté de violer une étudiante avec un autre étudiant en 1982. Lui avait 17 ans, elle avait 15 ans. Il était ivre. Il serait allé dans la chambre de cette femme, une chambre, et ils auraient verrouillé la porte. Il l'aurait tripoté, il serait étendu sur lui. Elle aurait cru donc qu'elle allait mourir.
Étouffée.
On n'en sait pas tellement plus, mais on sait que c'est une femme qui a 51 ans maintenant, qui est professeure en psychologie à l'université de Palo Alto. Et ce qui est embêtant pour Kavanaugh, c'est que cette personne a suivi une psychothérapie, figure-toi, en 2012, pour cette agression. Et que le psychologue qui l'a suivi a consigné son témoignage dans un cahier. Or, cette femme...
Donc, elle a suivi une thérapie 30 ans après les faits.
Oui.
Sauf que c'est consigné. Parce qu'évidemment, les adversaires, les alliés de Kavanaugh vont dire « Ah, c'est une démocrate qui sort pour faire dérailler le processus. »
Exactement. Mais c'est consigné. Le problème, c'est que l'autre gars qui était là nie les faits. Il dit « Non, je me souviens pas de ça. » Kavanaugh, bien entendu, nie les faits aussi. Et dans les cahiers du psychologue, le nom de Kavanaugh n'apparaît pas non plus.
Okay.
Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que cette femme est prête à témoigner au Sénat et donc à raconter cette histoire-là devant les sénateurs. Et on se demande donc si les sénateurs vont accepter qu'elle témoigne.
Il y en a un qui a dit qu'il était prêt à l'entendre.
Oui, mais il faut que tous soient d'accord pour faire ça. Alors, est-ce que ça va avoir lieu ou non? Est-ce que ça va faire dérailler? Est-ce qu'elle a raison d'abord? Est-ce que c'est effectivement Kavanaugh? Tu sais, c'est beaucoup de questions, mais...
Est-ce qu'elle dit vrai? C'est ça que je veux dire.
Mais les conservateurs, déjà, les républicains commencent déjà à dire, vous savez, si c'est pas Kavanaugh, alors on va présenter un autre candidat, et il va être encore plus conservateur que Kavanaugh. Et ils sont pressés parce qu'évidemment, il y a les élections qui s'en viennent en novembre, et ils pourraient perdre leur majorité au Sénat.
Bon. OK. Mais pour le moment... Ils ont les votes pour le confirmer, là.
Totalement.
Sauf qu'il y a deux femmes républicaines, deux sénatrices républicaines. Qu'est-ce qu'elles vont faire, elles? Parce que je pense que ça doit être la sénatrice du Maine, Mme Snow, habituellement, qui est capable d'être très indépendante.
Et je pense que c'était, je l'ai vu dire, écoutez, je n'ai pas encore décidé.
Ouais, voilà. Donc, et là, ça donnera un vote de 50-50.
Exactement.
Ce serait le vice-président à ce moment-là qui trancherait.
Si elle, et il y a une autre femme aussi.
Ouais.
Alors, on ne sait pas ce qui va arriver.
Okay.
Mais écoute. Pour le moment, l'esprit partisan risque de l'emporter.
OK. Parle-nous de cet appel du maire de Londres, parce qu'on sait qu'à la suite d'un référendum, la Grande-Bretagne a voté par une majorité pour sortir de l'Union européenne. Depuis ce temps-là, ils essaient d'en sortir, mais c'est extrêmement compliqué. Sur le plan politique, c'est très compliqué pour la première ministre, Mme May. Et là, le maire de Londres a dit, savez-vous quoi? Faudrait un autre référendum pour rester dans l'Union européenne.
C'est Sadiq Khan, qui est un maire travailliste, donc opposé à Theresa May, qui avait milité dans le camp anti-Brexit.
Donc anti-sortie.
Et c'est pas le premier à le demander, mais il dit, écoutez, ces négociations vont très mal. Moi, je pense que, quel que soit le résultat des négociations, il faudrait retourner devant le peuple anglais et dire, êtes-vous prêt, oui ou non, à accepter ça? Ce qui est quand même assez habile. Et il dit, écoutez, ça va pas très bien en ce moment dans les négociations du Brexit. Ça pourrait être dangereux pour la Grande-Bretagne. Évidemment, Theresa May exclut tout référendum sur l'issue des négociations pour le Brexit. Elle dit qu'elle va le soumettre aux députés, mais remarque que les travaillistes ont déjà dit qu'ils allaient voter contre tout accord sur le Brexit. Et en même temps, tu sens qu'en Europe, les gens sont plutôt prêts à faire des concessions à la Grande-Bretagne.
Ils ont plutôt accepté l'idée que la Grande-Bretagne devait partir.
C'est ça. Et ils appellent à une sortie honorable. Angela Merkel a fait ça il y a quelques jours. Et donc, tout le monde semble avoir fait son nid et dire, écoutez, il faudra qu'elle sorte. On verra ce qui va arriver. Je pense pas qu'il y ait un référendum en Grande-Bretagne là-dessus. Mais la majorité de Mme May est très ténue. Et si quelques députés décidaient de voter contre cet accord-là, ça pourrait faire tomber le gouvernement et il pourrait y avoir un référendum à ce moment-là sur l'accord.
Mais ça prendrait un nouveau gouvernement pour ça.
Ça prendrait un nouveau gouvernement pour ça, mais c'est pas
actuellement,
le délai final est le 29 mars 2019 pour le Brexit. Alors, ça vient très, très vite, tout ça.
Le délai final, fixé par qui, là?
Par l'Union européenne. C'est par les règlements de l'Union européenne pour sortir du Brexit avec l'Angleterre.
OK. Puis ça, est-ce que ce délai-là est avant la prochaine élection?
Oui, c'est avant la prochaine élection. Et je dois rajouter que le négociateur principal de la Grande-Bretagne, lui, est très confiant. Il pense qu'il pourrait y avoir un accord d'ici 6 à 8 semaines. Donc, quelque part en novembre.
OK. Donc, normalement, ça devrait procéder et la Grande-Bretagne devrait quitter l'Union européenne. OK. Parle-nous un petit peu de cette Corée du Nord, donc, qui parle encore de réunification avec la Corée du Sud.
Demain, les deux présidents se rencontrent pour 3 jours à Pyongyang. C'est une grande rencontre. Et il parle de traité de paix qui pourrait signer en dépit de ce que pensent les États-Unis. Il parle de réunification, ce qui paraît très avancé. Je suis pas sûr que les Sud-Coréens acceptent ça du tout. Mais quand même, on voit une volonté de coopération extrêmement forte. Et pendant ce temps-là, à peu près au moment où on se parle, à l'ONU, au Conseil de sécurité, il y a eu une prise de bec entre la Russie et les États-Unis parce que les États-Unis accusent la Russie de contourner les sanctions, de briser donc toutes ces sanctions contre la Corée du Nord. Les Russes disent « mais non, il faut donner confiance aux Nord-Coréens, donc ils se défendent ». Et on ne sait pas exactement où tout ça s'en va, mais on sent vraiment, on en a parlé la semaine dernière, que tout le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est en train de glisser des mains des États-Unis. Si la Corée du Nord et la Corée du Sud décident de signer un traité de paix sans les États-Unis, si la Russie décide d'aider, en dépit des sanctions, la Corée du Nord, mais les États-Unis ont de moins en moins de prise, auront de moins en moins de prise sur la Corée du Nord. Ils vont perdre une grande partie de leur pouvoir dans la région.
Mais j'ai quasiment le goût de te dire... Dans l'état actuel du leadership américain, puis dans l'état actuel de la capacité de Trump, justement, à avoir un leadership efficace, peut-être que moi, si j'étais coréen, là, sais-tu quoi, je suis pas sûr que j'aurais le goût que Trump soit trop, trop proche de moi, là, mais je suis pas sûr que je... Ben, tu sais, si je suis capable de m'entendre avec le voisin, là, j'ai-tu besoin de Trump, moi,
mais
là? De toute façon,
entier?
Trump, il va me dire oui une journée, le lendemain, il va changer d'idée, pas fiable pantoute, là.
C'est ce que le monde entier est en train de se dire.
Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir.
Paul Oud, qui s'en vient avec Le Monde de Paul dans un instant.